Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le suicide assisté en Italie sera bientôt possible sous certaines conditions. La Cour constitutionnelle du pays a tranché hier soir et nous reviendrons sur cette décision dans cette édition. Nous analyserons également la décision de la justice française. Elle condamne Sandra Müller qui avait initié le mot-clé « balance ton porc » sur les réseaux sociaux. Ces accusations étaient sans fondement, dit le tribunal. Notons ce matin à Rouen par ailleurs un gigantesque incendie dans un site classé Céveso. Pas de victimes actuellement, mais un périmètre de confinement. Et puis vous entendrez le ministre de l'écologie de la Polynésie française. Ses compatriotes, dit-il, ont déjà les pieds dans l'eau à cause du réchauffement climatique. La Cour constitutionnelle en Italie rend donc possible le suicide assisté sous certaines conditions. L'aide au suicide ne sera plus systématiquement condamnée, en tout cas quand la loi sera votée. Mais cette décision de la Cour est déjà historique pour les associations qui demandaient une évolution. Les explications de notre correspondant Bruce de Galza.
Le suicide assisté n'est plus illégal en Italie sous certaines conditions. C'est une victoire pour les défenseurs de cette cause, comme l'avocate Filomena Gallo, qui a défendu les cas emblématiques depuis des années.
Aujourd'hui, leur témoignage, leur sacrifice donne une liberté à tous les Italiens qui, s'ils veulent décider de mettre fin à leurs propres souffrances avec une injection létale, s'ils ont une maladie incurable, douloureuse, et s'ils sont capables de prendre leurs propres décisions, eh bien ces personnes ne seront plus seules.
Les conditions sont donc strictes, une souffrance intolérable, une maladie irréversible pour un patient qui doit être sous assistance et traitements vitaux est capable de choisir de mourir de manière libre et éclairée. Cette décision de la Cour constitutionnelle doit maintenant franchir un autre pas, celui de la loi. Les parlementaires sont mis devant leurs responsabilités car la Cour leur demande de légiférer. Déjà, les opposants se font entendre. Matteo Salvini a dénoncé un suicide d'État. Les catholiques sont appelés à se mobiliser pour une bataille devant le Parlement.
Autre débat de société qui agite les politiques et l'opinion en France cette fois. Le projet de loi bioéthique est en discussion dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale depuis mardi et les députés sont entrés dans le vif du sujet hier soir. Des voix se sont élevées, principalement à droite et à l'extrême droite, pour dénoncer ce qu'elles appellent une procréation médicalement assistée sans père, ce que réfute le gouvernement. Il va débattre avec 500 Français. Emmanuel Macron est attendu en début de soirée dans l'Aveyro à Rodez pour évoquer la réforme des retraites. Le chef de l'État retrouve ainsi l'ambiance du grand débat qu'il avait mené en début d'année pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. 3 heures de questions-réponses ce soir qui pourraient prendre plus de temps que prévu pour tenter de calmer la colère ambiante face à la réforme des retraites. Venons-en maintenant à cette décision de justice. La journaliste Sandra Müller, à l'origine du hashtag du mot-clé « balance ton porc » il y a 2 ans, a été condamnée hier par le tribunal correctionnel à payer 20 000 euros d'amende de dommages et intérêts et de frais de justice à son ancien patron de la chaîne Equidia. Elle avait en fait nommé Éric Brion dans un de ses tweets, évoquant du harcèlement sexuel. Accusation sans fondement selon le tribunal lors de Beaulieu.
Les juges ont en effet considéré qu'il n'y avait pas de répétition et donc pas de harcèlement. Ils ont aussi reconnu le préjudice de réputation, car sous le couvert de la liberté de s'exprimer, pouvait se cacher une délation de mauvaise foi. Pour Francis Piner, qui défend Sandra Müller, ce jugement est rétrograde.
Si vous mettez des entraves à la liberté de parole, eh bien évidemment, c'est une régression. Et donc je considère que ce verdict aujourd'hui est une régression vers ce mouvement formidable qui s'est développé, mais qui, malgré cette décision, ne s'arrêtera pas.
Éric Brion s'est dit soulagé. La justice des réseaux sociaux, dit-il, a été très violente. Pour son avocate, Marie Burguburu, cette décision permettra de rétablir la justice dans la jungle des réseaux sociaux.
C'est une première décision, mais à mon avis, c'est pas la dernière. Le nom du mouvement parle de lui-même, balance ton porc. C'est un appel à la délation par l'insulte ou par l'injure. On est très loin du mouvement de MeToo ou du mouvement de libération de la parole de la femme.
Le tweet de Sandra Müller va être retiré du fil de la journaliste et la question sera une nouvelle fois posée devant la cour d'appel.
Je vous le disais lors du sommaire de ce journal, un important et impressionnant incendie s'est déclaré cette nuit sur un site classé Seveso à Rouen. Il s'agit d'une usine qui fabrique des additifs pour lubrifiants. La préfecture vient de décider un confinement de la population dans un périmètre de 500 mètres autour de l'entreprise. Toutes les écoles de l'agglomération rouennaise seront fermées aujourd'hui. La préfecture indique par ailleurs qu'il n'y a à l'heure actuelle pas de victimes et le préfet précise que les premières analyses ne montrent pas de toxicité aiguë sur les principales molécules de la fumée qui se dégage actuellement de l'usine. Comme un air de déjà-vu, EDF revoit à la hausse son estimation des coûts pour construire l'EPR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. 2 à 3 milliards d'euros de plus. Et comme pour la centrale de Flamanville en France, le délai ne sera pas tenu. Les nuages s'accumulent donc pour le constructeur français qui a vu son titre en bourse chuter de près de 7% hier. Plus que jamais, l'EPR, pourtant présenté comme le fleuron de la technologie nucléaire française, l'EPR voit son image écornée, Anne-Laure Jumet.
Hinkley Point, c'est un chantier pharaonique. 4000 personnes travaillent sur le site qui accueille la plus haute grue au monde. Les deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération doivent contribuer à l'objectif du Royaume-Uni d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais ce qui devait être une vitrine du savoir-faire français tourne au fiasco avec une facture qui dérape donc encore de plusieurs milliards d'euros. Pas de quoi donner envie au gouvernement britannique de signer pour deux autres réacteurs à l'ouest du pays, ce qui est en négociation avec EDF. De quoi porter aussi un coup au pourparlers en cours avec l'Inde, la Pologne et la République tchèque. Pour l'instant, l'EPR n'a pas brillé. Seuls deux réacteurs sont actuellement en service en Chine. Mais en Finlande, où a été lancé le premier chantier du genre, on en est à 10 ans de retard sur le calendrier initial. Idem pour l'EPR de Flamanville en France, avec une mise en service prévue fin 2022 et une addition qui a plus que triplé. Ajoutez à cela les problèmes de soudure et les doutes de l'autorité de sûreté nucléaire qui a placé l'ouvrage sous surveillance renforcée. Bercy a lui commandé un audit dont les conclusions seront rendues fin octobre. De quoi donner des éléments au gouvernement qui doit décider à la mi-2021 s'il autorise ou non la construction en France de nouveaux EPR.
C'est désormais une certitude. Donald Trump a bien demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Joe Biden, son principal rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Le département américain de la justice a révélé hier le contenu du dialogue téléphonique, confortant donc un peu plus les démocrates dans leur démarche. Avant-hier, ils avaient enclenché une procédure de destitution à l'encontre du président américain. Cela a peu de chances d'aboutir puisque les républicains restent majoritaires au Sénat et ils devraient soutenir Donald Trump. C'est en tout cas l'analyse que fait Laurence Nardon, elle est responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI.
On est dans un pays extrêmement polarisé et donc je pense que les partisans du président diront pour leur part que tout va très bien, ça n'est pas vraiment condamnable, que c'est une chasse aux sorcières et comme a dit le président dans un tweet cette nuit, du harcèlement présidentiel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un pays où la réalité est absolument interprétée par les uns et les autres suivant leur inclinaison idéologique. Et donc, je ne suis pas sûre que cette conversation soit en elle-même suffisamment épouvantable. Elle l'est certainement, mais pas forcément assez pour que les républicains qui suivent le président depuis 3 ans maintenant changent de camp.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Le président israélien Reuven Rivlin a chargé Benjamin Netanyahou de former un nouveau gouvernement de coalition en Israël. Les discussions avec les centristes du parti bleu-blanc de Benny Gantz avaient échoué à 8 jours des législatives, 8 jours après les législatives. Nous rejoindrons notre correspondante en Israël lors du journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Les océans et les zones gelées dépérissent à grande vitesse à cause du réchauffement climatique. Voici le constat alarmant du rapport du GIEC rendu public hier. Glaciers bientôt invisibles, montée du niveau des océans, petites îles menacées de submersion, les impacts seront dévastateurs et commencent d'ailleurs déjà à l'être. Hier, à Paris, le ministre de l'écologie de la Polynésie française était au ministère de la Transition écologique. Eremoana Mamatua Atupu, c'est son nom, refuse de voir si son archipel sera englouti par les océans. Il agit donc et il demande aux autres pays d'en faire de même.
On n'est pas les principaux contributeurs des gaz à effet de serre, mais on est peut-être déjà les premières victimes des conséquences du changement climatique. Mais on ne veut pas juste être victime, on veut être aussi leader pour le changement climatique. Humainement, ça veut dire que c'est déjà compliqué à gérer. Vous savez, une île, c'est petit, et la seule chose qu'on voit, c'est l'horizon, c'est la mer. Donc on est très attaché à nos petits bouts de cailloux. Partir, c'est toujours un déchirement pour toutes les populations du Pacifique. Si on n'a pas le choix demain, déjà, comment on fait pour partir de chez nous? Mais où on va? C'est déjà compliqué de sauvegarder ce qu'on a à sauvegarder. Mais si en plus on doit partir, on va où? Est-ce qu'on vient ici à Paris? Pour nous, la Polynésie française, on va en Calédonie. Tout ça, ce sont des choses qui, finalement, dont on ne veut même pas parler, parce qu'il faut se battre pour préserver nos îles. Dans le Pacifique, c'est devenu un enjeu vital. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, encore une fois. Ce n'est pas demain, c'est pas... Voilà. Donc c'est bien de discuter partout, que les grands de ce monde discutent, mais nous, on a déjà les pieds dans l'eau.
C'était le ministre de l'écologie de la Polynésie française, interrogé par Véronique Roberotte. Le ciel restera couvert ce mercredi et pluvieux, sauf sur une large bande du sud de la France. Comptez ce matin 17 degrés à Paris, 18 à Lyon, 23 à Marseille.